213 Rock with Hair Egg Melodica on Vinyl Stein's Classic Rock Radio.
Hell yeah, sur la Web Rock Station, Vinny Times, le Classic Rock Radio. Donc bonsoir à tous et bonsoir à toutes. À l'instant, le United Guitar, notamment, vous aurez reconnu le guitariste Yarel Poupeau, avec le single Mask and Furious. Mais cela, tout de suite, maintenant, la personne qui a organisé ce projet est avec nous en direct. Bonsoir Ludovic.
Salut Arag.
Comment vas-tu, ça va?
Ça va super, écoute. Ça va super, comme tout le monde en ce moment, dans cette période un peu particulière, on fait au mieux pour que ça aille.
Effectivement, on fait vraiment au mieux, quoi. On essaye, enfin tous les soirs on est en direct, et toi aussi tu sors donc un beau projet, donc qui s'appelle United Guitars, cette fois-ci le volume 2, voilà, ça, un double CD Digipack, donc ça c'est ton projet.
Ouais, et un triple vinyle aussi.
Et un triple vinyle. Donc Ludo, un petit peu, tu es le rédacteur en chef de la revue Guitare Extrême, par United ouais. Guitars, t'as envie d'aller célébrer ce projet t'avais envie de célébrer ce projet par une série de 15 titres assez forts, quoi, instrumental déjà.
Voilà, donc le premier album, le volume 1, il y avait 15 titres. Et là, sur celui-ci, ouais. On a été un peu plus loin, il y en a 17.
C'est ça, d'accord. Mmh. D'accord, 17. Et en plus, donc là-dessus, quand on voit la photo, en fait, du fait de ton positionnement chez Guitar Extreme, t'as invité tous les potes, quoi, sur ce coup-là.
Alors des potes et puis des gens que je connaissais un peu moins, mais que j'ai été amené à connaître de par mon boulot dans Guitar Extreme. Tu sais, je fais beaucoup d'interviews, beaucoup de vidéos aussi pour la chaîne YouTube du magazine. Donc ça m'a amené à rencontrer quasiment déjà tous les guitaristes français et puis pas mal d'internationaux aussi. Donc voilà, c'est surtout en fait voilà réunir vraiment les gens que je considère comme représentatifs de ce qui se fait de mieux. Voilà. Aujourd'hui, en matière de gratte.
Mmh. Et moi, j'ai l'impression que tu agis comme un label, parce que c'est aussi fait pour découvrir des jeunes guitaristes que peut-être qui sont pas très connus du grand public, connus des experts, oui, mais du grand public, c'est un peu le but aussi.
Bah oui, tu te rappelles certainement dans les années 80-90, il y avait ce label qui était dirigé
Shrapnel.
Par un mec.
Shrapnel Records, ouais. Mike Varney. Attends, c'est mon voilà. Dieu, ça, c'était mon truc.
Ah ouais. Voilà. Et moi, disons que grâce à ce mec-là, quand j'étais, on va dire, à la sortie de l'adolescence, j'ai découvert vraiment tout un tas de guitaristes super, Vinnie Moore, Kotzen, Michael Lefferkens, tout, Blues Saraceno, plein de guitaristes qui m'ont vachement inspiré. Donc voilà, et je le remercie vraiment d'avoir fait ça à l'époque, c'était super. Il y avait lui qui faisait ça, il y avait aussi des magazines américains, il y avait Guitar World qui éditait des compilations, il y avait Guitar for the Practicing Musician aussi qui éditait des compilations aussi. Et grâce à ces gens-là, en fait, donc on pouvait découvrir plein de talents. Et aujourd'hui, si tu veux, le constat que j'ai fait il y a quelques années, c'est que la guitare, en fait, elle est plus vraiment présente dans les médias généralistes, comme le rock du reste, c'est-à-dire on vit plus dans un monde de hip-hop et de musique d'électro, donc on va dire. Et même si la guitare elle a toujours une place dans ces musiques, elle est reléguée un petit peu à son rôle d'accompagnement et plus vraiment d'instrument lead et héroïque, on va dire. Voilà. Et moi, c'est quand même ça qui m'a donné envie de jouer de la guitare, c'est les guitares héros, quoi. Et donc quelque part, voilà, à mon modeste niveau, j'ai envie de lui redonner un peu ses lettres de noblesse, et puis pourquoi pas la faire connaître auprès d'un public qui l'écoute pas forcément, qui la connaît pas forcément, et peut-être pousser les gens à écouter de la musique à guitare et pourquoi pas en jouer, tu vois.
Ouais, effectivement, Mike Varney, tu m'as fait rêver là, tu m'as fait rappeler beaucoup de souvenirs sur ce coup-là. Il y a eu McAlpine à l'époque, je me souviens très bien, les deux premiers McAlpine m'avaient sidéré, quoi. Le Edge of Insanity et le Maximum Security, ça c'était les deux premiers. Il y a eu le Greg O, comme tu l'as souligné, le Richie Kotzen. Il y a eu le Joe Tafoya aussi, le Out of the Sun. Il y a eu le Vinnie Moore, oui, avec Jordan Rudess au clavier, ça c'était incroyable. Il y a eu le Jason Becker, alors oui, Jason Becker, Marty Friedman, Lego Off, Cacophonie, etc. Et là, c'était la tuerie totale. mal ça. Bah, 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 bah. Là,
exactement.
C'était grand.
Ouais. Ouais, ça,
c'est grandiose.
S'envoyer du lourd.
Ouais, ah ouais, 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 ouais. Et Richie Kotzen, puis, ouais, c'est effectivement Richie Kotzen. Avant qu'il chante aujourd'hui, il était aussi un gros guitariste, effectivement, quoi. Un très gros guitariste. Ouais, c'est.
Exactement. Puis il avait aussi, Varney, il avait une rubrique dans le magazine Guitar Player qui s'appelait Spotlight. Et c'est comme ça qu'ont été quand même, au départ exposé Malmsteen ou même Satriani ou des gens comme ça, c'est-à-dire ils ont été exposés dans cette rubrique.
Tu sais, tu as mentionné as-tu mentionné Michael Lieferkins? Oui, tu l'as mentionné.
Bien sûr.
Oui, je l'ai vu au Gibus à l'époque. Il est passé au Gibus. Même Marty Friedman était passé avant que Mickey Jurand dans Meganess, il était passé aussi au Gibus pour son album, je crois qu'à l'époque c'était pour Go Off, il était passé aussi. Ouais, je me souviens, c'était les soirées à l'époque. Il y avait des trucs extraordinaires.
Je l'ai cité notamment parce que j'ai écrit sur cet album un morceau avec un autre guitariste qui s'appelle Pat O'May et en fait la mélodie du morceau, le thème, c'est vraiment des phrasés de country jouées avec de la distorsion, et j'avais vraiment ce mec en tête quand j'ai fait ça, quoi. Vraiment, mm-hmm. c'est presque un petit hommage à Michael Lieferkins.
Ouais, en plus il jouait sans Mediator, je me souviens, il jouait sans Mediator. Ah ouais, ça y est, ça me revient. Ah, incroyable,
bah ouais.
Quoi. Ouais,
comme Kotzen aujourd'hui, comme Jeff Beck, comme plein de guitaristes.
Ouais. Justement, as-tu eu des exigences artistiques pour ce projet? Enfin, pour ce volume 2 surtout.
Des exigences artistiques, non. Alors disons, moi je laisse un peu carte blanche quand même aux guitaristes. J'essaye juste, en fait, quand je les sélectionne au départ, quand je définis le line-up, de pas avoir trois guitaristes qui sont dans la même veine pour que justement il y ait des complémentarités. Et après, la seule exigence que j'ai eue, enfin, c'est même pas une seule exigence, j'ai suggéré à pas mal d'entre eux de pas composer tout seul, mais de faire des binômes ou des trinômes pour qu'il y ait encore plus d'interactions. Donc, il y a un bon tiers des morceaux qui ont été composés à plusieurs, et j'ai trouvé ça sympa parce que ça renforce vraiment le côté communautaire et le côté partage, quoi.
Ouais, justement, le côté communautaire, il y a une sacrée pléiade de bons guitaristes en France, hein. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable.
Ouais, bah c'est ça, t'as vu. Ouais. Il y a plein de mecs qui jouent très bien. Et puis, dans toutes les générations, on a Fred Chapelier qui a 53 ans ou 54 ans. Et on a de l'autre côté un gamin franco-indien qui s'appelle Manu Rao, qui a déjà jammé avec McAlpine, avec Rontal, et qui qu'il a 15 ans ou 16 ans, je sais plus. Et c'est. Mmh.
Ouais, moi je pensais à Manu Libertou, qui est vrament extraordinaire, qui est très très bon. Neo Geo Fanatique, qu'on le voit, hein, notamment avec ADX, mais aussi on le voit en solo, il est très bon aussi, hein, un bon gars, ouais, effectivement. Et il y a pas mal de beaux noms, quoi. C'est ouais effectivement, ouais. Faut le souligner quand même, il y a aussi des belles écoles en France, hein, de guitare. Ouais. Je pense notamment du côté
bien
de
sûr.
Nancy, ouais. Ça aide tout ça.
Ouais, et puis il y a aussi le fait que avec Internet, mine de rien, et puis des outils comme YouTube, alors ça apporte aussi bien du bon comme du mauvais, mais ça permet quand même d'avoir une documentation sur ce qu'on peut faire avec une guitare. Il y a plein de tutos, de cours en ligne, choses comme ça, et quand même ça a fait monter le niveau dans des pays comme la France qui n'étaient pas forcément au départ dans l'âge d'or de la guitare, on était un peu à la traîne. Il y avait des gens comme Manu Lievertou, que tu mentionnes, qui avaient déjà pigé pas mal de trucs, mais ouais. Il fallait des. Enfin, c'était dur de trouver les informations pour savoir comment jouaient les gens dont on a parlé, tu vois. Et donc aujourd'hui, tu peux. Un gamin de 14 ans, en 2 ans, il peut parcourir le chemin qu'on mettait 10 ans à parcourir avant, tu vois. Donc c'est
aussi l'aisance. Ouais, c'est aussi l'aisance, c'est aussi peut-être le côté éducatif. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font que, notamment le jeu Guitar Hero, moi ça m'a surpris quand c'est sorti, ça m'a fait rappeler de toute cette période, notamment de Shred. Et t'as tous les gamins qui font qui jouent à Guitar Hero, en fait, j'avais l'impression qu'ils étaient en train de faire du Shred, quoi. Enfin, ils allaient tellement vite que, c'était un peu la dextérité. Ils travaillaient un peu avec leur côté dextérité. Mais tout à l'heure, tu as mentionné, donc Shrapnel Records, Mike Varney, etc. Mais comment t'as pu inviter Axel Bauer? Axel Bauer, ok, il écrit des très très bonnes chansons, mais comme guitariste, on le connaît moins quand même.
Bah, on le connaît moins, justement. Enfin, c'était, si tu veux, dans le cadre du magazine Guitar Extreme, on a fait deux vidéos pour la chaîne YouTube qui étaient déjà des vidéos collaboratives. C'était un peu l'embryon de ce projet, on va dire, où on a composé deux instrumentaux. Donc le premier avait été composé par Yuri De Groot, et le deuxième, qui était plus blues rock, avait été composé par Fabrice Dutour, qui était guitariste dans Dyslesia avant, que tu connais peut-être. Mm-hmm. Et donc on a invité à chaque fois 8 guitaristes à jouer sur chacun des morceaux. Et sur le deuxième, il y avait Axel Bauer, que je connais très bien, quoi. Et je lui ai dit, bah, viens jouer un solo sur ce morceau. Et donc, il y avait aussi Fred Chapelier, il y avait Fabrice Dutour, il y avait Michel Benjeloun, qu'on retrouve sur cet album aussi, qui est le guitariste de Gaël Buswell. Et à la fin de la journée, j'étais avec Fabrice, Axel et Fred Chapelier. On était en train de prendre un café. Et puis on s'est dit, ouais, il faut qu'on aille un peu plus loin que ce qu'on a fait cet après-midi. Ce serait cool de se retrouver dans un studio et puis de monter un vrai projet. Donc c'est resté un petit peu comme un plan tiré sur la comète. On parle souvent de trucs comme ça, puis en fait on le fait jamais. Et moi j'ai la chance d'avoir ma chérie qui est productrice, donc Olivia Rivasso, qui dirige un label qui s'appelle Mistiro Productions. Mm-hmm. Et en fait elle a cherché un moyen de rendre viable un projet comme ça. Et donc c'est un peu elle. En dans l'ombre qui a créé toute l'arborescence de ce projet, trouver des financements, comment l'enregistrer, comment l'organiser, comment le mettre en place et tout. Et en fait, voilà, donc elle m'a dit un jour, voilà, bah, écoute, ton truc, c'est une super bonne idée, je suis sûr qu'on peut le monter et faire un truc super.
Ça, c'est bien.
Et donc, on s'est jeté à l'eau. Au début, on n'était pas sûr d'aller jusqu'au bout. Hein. Moi, j'étais persuadé que ça intéresserait personne, en fait, tu vois. Enfin, je me disais, il y aura bien 4-5 pelés qui écoutaient les compiles de McVarney ou qui écoutent de la guitare instrumentale qui vont adhérer au projet. Mais voilà, donc on a lancé le Kiss Kiss Bank Bank qui finance en partie le projet. Je me suis dit, on va se ramasser, on va récolter 50 balles, et voilà. Puis en fait, non, ça a cartonné. Et puis l'album, c'est très bien vendu pour un album de niche, tu vois. Donc,
on y arrive.
On a dépassé sur le premier les 3000 exemplaires vendus, tu vois, ce qui
c'est
est
bien. C'est bien.
Pour un album de niche, voilà, moi je suis super content. Et donc, du coup, voilà, ça nous a donné la foi pour en faire un deuxième. Et puis, de toute façon, on était parti dès le début dans l'idée de créer une collection. Donc, on espère en faire beaucoup d'autres.
Ah ouais, tu m'as fait rêver, hein. Je te jure, McVarney, tu m'as fait rêver là. Quand tu as dit tout à l'heure McVarney, tout est revenu en un quart de seconde. Ça ne s'oublie pas, ça.
Ah ouais,
le label Shrapnel Records. Oh là 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 là. J'ai à peu près tout écouté. J'ai découvert énormément de choses. Je te dis, j'ai passé des années dedans, quoi. J'étais complètement dingue de ça.
Il y a plein de guitaristes, même en dehors de Shrapnel, mm-hmm. qui ont façonné cet univers de la guitare instrumentale. Tu vois, je me rappelle, la première fois que je t'ai rencontré, t'étais attaché de presse, je crois.
Ouais, chez MTS, ouais.
Et j'avais fait une interview de Yuli Roth.
Oui.
Et voilà, enfin, tu vois, c'est des gens, moi, qui m'ont vraiment marqué au fer rouge dans mon adolescence, et je suis pas le seul, voilà, toute cette école là, puis enfin moi voilà, tout
grand bonhomme,
tous les guitaristes de l'histoire du rock, de Chuck Berry à Yuli Roth, en passant par Michael Schenker, Satriani, aujourd'hui des gens comme Guthrie Govan ou Tosin Nabasi, moi j'ai pas de frontières, quoi, tu vois, il y a vraiment plein de gens qui font des trucs passionnants avec ce morceau de bois et ses cordes.
C'est marrant, parce qu'à l'époque, il y a eu John Petrucci, donc Dream Theater, avait proposé un instrumental, donc un titre à l'époque avec Mike Varney. Alors je sais plus s'il a figuré sur une compilation ou il avait été refusé, je sais plus du tout. Et ainsi que Michael Romeo aussi, Symphony X. Pareil, il avait aussi écrit une instru et qu'il avait envoyé. Et ça n'était pas passé. Je crois que c'était pas passé. Et étonnant, quoi. Ouais, il y a des grands noms comme ça. C'est incroyable, quoi. L'histoire de ce label est très importante pour comprendre tout ce qui va arriver à l'avenir, quoi. C'était incroyable. Cette entente autour des guitaristes, tout ça, je pense qu'elle a été bonne, parce que mettre trois guitaristes en même temps sur un même titre, il y a les égos, il y a l'entente, il y a beaucoup de choses qu'il faut gérer là. Là, il y a le travail, tout est différent, en fait. Après, faut arriver au résultat.
Les égos, si tu veux, ils existent certainement, mais dans la façon dont on travaille en studio, il s'amenuise très vite, parce que si tu veux, quand il y a un guitariste qui est en train d'enregistrer dans le studio, il y a les autres qui le regardent en train de faire, donc quelque part c'est un peu intimidant et tout, donc puis finalement, en fait, moi je pensais qu'il allait y avoir du jugement sur le premier album, que les gens allaient se toiser un peu comme ça, et finalement quand il y en a un qui a un moment un peu de doute, qui arrive pas à faire un truc, tout le monde l'aide à trouver des solutions, il y a vraiment une super entraide qui intervient entre les gens. Puis même tout à l'heure, tu parlais d'Axel Bauer, qui est un monsieur qui a plus rien à prouver, qui a une carrière, qui a eu des tubes et tout ça. Il était quasiment tous les jours en studio avec nous. Donc il assistait au truc et ça l'a fait triper, tu vois.
C'est bien, c'est beau, ouais. Franchement, c'est beau, quoi. Et je vais même te dire, là, comme ça vient de tilter, les studios où enregistrait Mike Varney s'appellent les Prairie Studios.
Oui, exact, ouais, t'as raison.
C'est
ouais,
ça. Carrément. Tu vois, ça vient de tilter, là. Prairie Studio, je t'ai dit, hein, j'étais complètement dingue de ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Avant de terminer, s'il te plaît, Lulu, as-tu un message pour les auditeurs? Où trouver l'album, l'adresse, etc. Comment peuvent-ils se le procurer, s'il te plaît?
Alors, l'album, le mieux, bah, c'est d'aller sur www.united-guitars, comme à l'anglaise avec un S, donc united-guitars.fr/boutique. Voilà, ou même .fr, et sur le site on trouve le shop tout de suite, et donc on peut l'acheter donc en double CD avec deux livrets de 24 pages où il y a des photos, des bios, des guitaristes. Voilà, on a fait un bel objet, et il y a un triple vinyle qui est où il y a un vinyle rouge, un vinyle blanc et un vinyle noir, donc les mêmes couleurs que notre logo. Enfin voilà, puis il y a plein de choses. On a une page de merch où on essaye de faire des trucs tripants. Voilà, on a fait des masques United Guitars, on a fait des Mediator custom. Donc il y a des modèles dans plein de matières, notamment des Mediator en titane qui sont gravés, qu'on peut mettre en pendentif. Enfin, il y a plein de trucs cool. Voilà. Et on bosse aussi avec plein d'artisans français qui fabriquent du matos, tu vois. Donc il y a une marque de cordes française qui s'appelle School Strings qui nous a fait des jeux de cordes custom juste pour nous avec notre logo sur le packaging et tout. Enfin, il y a plein de trucs cool pour Noël, pour faire des cadeaux aux guitaristes.
Eh ben écoute, merci Ludo, merci en tout cas pour ce projet, pour ce United Guitars. Le titre choisi pour terminer l'interview, c'est The Ride of Wisdom. Je pense que tu connais ce titre.
Ouais. Bah bien sûr.
Sur lequel tu participes, sur que toi-même tu participes.
Justement, c'est intéressant que tu mentionnes ce titre parce que donc je joue avec Pat O'Mead dessus. Mais quand on fait nos campagnes Kiss Kiss Bank Bank, on réserve toujours un palier qu'on ouvre en fait à un Kiss Kiss Bankers. Et si en fait il achète ce palier, il gagne le droit de venir enregistrer son solo avec nous en studio. Donc on parle de guitariste amateur. Hein. Mm-hmm. Et là donc le solo du milieu, le deuxième, il a été joué par un garçon qui s'appelle Xavier Lacombrade, qui est pharmacien à Toulouse et qui est fanatique de gratte instrumentale. Et il est venu en studio et donc il a fait un solo donc sur le disque.
Eh ben écoute, merci Ludo en tout cas pour cette interview. Ouais. Je rappelle l'album United Guitars disponible. Vous avez entendu l'adresse. Vous avez entendu en tout cas toutes les explications ce soir données par Ludovic himself. Tout de suite, The Ride of Wisdom sur 213 Rock, le Vinyl Times, le Classic Rock Radio. Hier sur la Wild Rock Station, Vinnie Times, le Classic Rock Radio, le United Guitars, The Ride of Wisdom. Vous avez entendu, hein, Ludo Elgras était avec nous en direct ce soir sur 213 Rock Podcast que vous retrouverez après l'émission. Dans 7 minutes, Most Precipium East en direct, mais tout de suite Iron Savior, Welcome to the New World, le nouvel album Skycrest, 213 Rock.